Siegel, qui est un auteur jeunesse, très talentueuse, et que j'aime bien, avec qui j'aime bien échanger, parce qu'on se voit pas si souvent que ça. Donc c'est l'occasion, en fait, on n'a même pas eu le temps d'échanger trois mots dans ces utopiales. Donc finalement, pour voir les gens, j'ai besoin de les inviter à une table ronde. Voilà, et qui, donc évidemment, a un parcours d'auteur jeunesse très important, notamment bon, sa trilogie Outre-mer, mais aussi L'Or Bleu, que j'ai beaucoup aimé également, et qui intervient souvent auprès de la jeunesse, qui interviendra demain pour la journée des scolaires, et je la remercie très chaleureusement pour ça, parce que c'est encore aussi un investissement très important. Donc, ravi d'avoir aussi un auteur jeunesse pour parler des sciences sociales, parce qu'on pourrait se dire, bah, les sciences sociales, ça va intéresser les adultes. Non, bah, j'espère que, et je pense que ça intéresse aussi, et peut-être surtout les jeunes, par rapport aux structures et à même l'identité propre de leur société. Pierre Bordage, est-il besoin de présenter Pierre ? Bah, très émouvant pour moi de ma dernière table ronde avec le président des Utopiales pendant autant d'années. Je te rendais hommage à la cérémonie tout à l'heure, enfin hier, et je réitère ce que je disais, si tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait avec toutes les équipes des Utopiales, on serait certainement pas là aujourd'hui. Et donc au-delà de l'auteur, c'est brillant évidemment et très très connu. C'est aussi hommage au président à qui je veux remercier sa présence. Et puis à côté de lui, Laurence Sunner aussi, qui est l'une des invitées des Utopiales et qui vient de publier, donc puisqu'elle a amené le livre, on peut le montrer, Quantica, qui va être une trilogie, Vestige, chez La Talente, et qui est un des textes aussi que j'ai beaucoup aimé cette année et qui notamment, bien on pourrait penser, bien que ce soit un space opéra, laisse une passe très importante aussi aux questions des sciences sociales et des sociétés. Et puis l'absent, qui paiera en son temps, c'est Claude Eken, qui est l'auteur de bien des nouvelles. Et notamment, j'espère que vous l'avez vu, il est l'auteur de tous les textes de l'exposition Amazing Science. C'est l'occasion de vous en parler une dernière fois, puisque c'est le dernier jour. Et notamment de toutes les petites nouvelles de science-fiction qui sont là dans l'exposition. J'espère que vous avez pris le temps de la regarder. Il a fait un travail phénoménal pour satisfaire à la fois les connaisseurs de science-fiction que vous êtes, et je le dis parce que d'autant plus qu'il n'est pas là, je me permets de le dire, ça le gênerait s'il était là. Il a donné vraiment des petits textes, des petites perles absolument magnifiques. Voilà, donc si vous avez le temps en repartant, et pour ce dernier jour, n'hésitez pas à aller lire les textes et les petites nouvelles de Claude sur l'exposition Amazing Science. Et puis j'ai amené aussi un autre aspect de mon travail, et qui évidemment m'amène à vous parler des sciences sociales. C'est les sciences et fictions à Pérès, que c'est une collection des éditions du Somnium, qui est en quelque sorte le résultat de journées interdisciplinaires qui existent maintenant depuis 7 ans dans l'arrière-pays niçois, et qui en fait ont pour ambition de créer des échanges entre des universitaires et des auteurs en toute liberté, hors de tout cadre académique, hors de toute rigidité académique, pour essayer d'inventer des chemins communs, c'est-à-dire comment les auteurs peuvent apprendre des scientifiques et des chercheurs, et inversement, comment les chercheurs peuvent aussi interroger de façon libre et directe les auteurs. Et nous venons de publier Imaginaire scientifique et Art Science Fiction, qui est la dernière édition. Voilà, j'en suis évidemment très, très fier aussi. Alors, merci à vous d'être là, et puis Claude peut-être nous rejoindra. Alors, parler des sciences sociales en science-fiction, et la science-fiction peut-elle être un outil pour les sciences sociales ? Ça paraît un titre très, très universitaire, mais enfin, derrière ce titre, en réalité, il y a un sujet très simple. Le sujet très simple est le suivant. Comment la science-fiction, comment les auteurs de science-fiction nous parlent des sociétés humaines ou des sociétés extraterrestres, et comment ils font de ces sociétés des personnages, des êtres vivants, dont ils vont étudier les crises, la croissance, les mécanismes de vieillissement parfois et de disparition, ou aussi tout simplement les origines. Et j'ai voulu cette table ronde parce que j'ai la ferme conviction, et c'est ce qui dicte aussi mon travail, que la science-fiction est la littérature qui, parmi toutes les littératures disponibles, parle le mieux des subjectivités collectives, c'est-à-dire de l'âme des nations, des sociétés ou des communautés politiques. Alors, peut-être un premier tour de table pour commencer. Pourriez-vous me dire et dire à notre public quelle est la part de ce travail sur les sociétés lorsque vous écrivez vos romans, chacun, est-ce que vous pensez les sociétés comme des êtres vivants, comme des êtres collectifs? Et quelle est la part, finalement, dans votre travail de construction qui est dédiée à ces sociétés? Est-ce que vous partez, par exemple, directement sur les personnages et le cadre social vient derrière? Ou est-ce que vous pensez d'abord en amont un cadre social, soit très original, soit plutôt classique, et ensuite vous y insérez des personnages? Voilà, alors si Daniel, tu veux commencer.
Moi, je pars toujours des personnages. Et en plus, je leur donne des noms très vite, parce qu'il faut qu'ils existent en tant qu'individus très rapidement. Donc, je crée des personnages, et puis à partir de là, il faut que je fasse un décor. Donc, ce décor, il est obligatoirement lié à la société qui les entoure. Et donc, c'est là que je commence à mettre en place le système gouvernemental, disons. Enfin bon, je suis toujours dans des confédérations planétaires. Moi, ça m'arrange. Je ne me pose pas de questions au-delà de ça. Donc, elles grossissent de plus en plus. Enfin, c'est la même, d'ailleurs, hein, parce que si on prend tous mes romans les uns derrière les autres, il y a une espèce d'histoire du futur personnel. Avec l'or bleu, on est dans le système solaire, à la suite des guerres de l'eau sur la Terre. Avec les oubliés de Vulcain, on a déjà 30 mondes colonisés, donc ça grossit un petit peu. Ensuite, avec la trilogie d'Outre-mer, on est à 100 mondes. Enfin bon, ça, l'humanité avance pour moi dans l'espace de plus en plus loin, puisqu'à la fin de la trilogie d'Outre-mer, on a réussi à atteindre la galaxie d'Andromède. Et donc, voilà, ben, j'avance dans mon écriture, mes personnages aussi, et la Confédération planétaire de plus en plus. Mais bon. Sur chaque roman, il y a des imbrications particulières entre ces personnages et le background de la Confédération, donc qui donne un éclairage différent à chaque fois. Mais disons que c'est plus net, certainement, dans la trilogie d'Outre-mer.
Voilà. D'accord. Pour rester un moment avec toi, quand tu conçois tes romans, puisque en fait, on est dans une première partie de la question qui est presque à l'envers, hein. Est-ce que les sciences sociales sont un outil déjà pour l'auteur? On va voir. Est-ce que tu fais des recherches sur les modèles de gouvernement, puisque tu dis que ça vient après tes personnages? Quel type d'ouvrage tu consultes? Ou est-ce que tu te lances sur des représentations classiques de type monarchie, république ou autre?
On est plutôt dans... Non, monarchie, non. Ça, c'est sûr et certain. Je ne me pose pas vraiment de questions. Et puis, je pense que... un lecteur jeunesse n'a peut-être pas obligatoirement besoin de beaucoup de précisions. Mais il y a toujours une sorte de chambre des députés, si j'ose dire, que j'appelle la chambre des délégués. Il y a des représentants, ça me semble très important, il y a des représentants de toutes les communautés planétaires, etc. Chaque planète a son délégué et on sent derrière une démocratie, c'est sûr. D'accord. Et certain. Tout ce monde-là, ce n'est pas dit qu'ils sont élus au suffrage universel, mais c'est implicite. Quoi. Donc on est dans ce système-là, avec une sorte d'imitation, c'est du décalcage, en fait, peut-être de ce que les jeunes connaissent avec notre pays.
Voilà, tu prends les structures politiques, disons, connues par le jeune lectorat. Voilà. Transposer et donc tu les instrumentalises finalement d'une certaine manière derrière, après les personnages.
Oui, je dis souvent que je me sers de la science-fiction comme d'une loupe, mais d'accord. Ça marche aussi pour ça. C'est-à-dire, je prends la société telle que les jeunes la connaissent autour d'eux et je projette ça dans le futur en grossissant la problématique.
D'accord, merci beaucoup Daniel. Pierre, la part des sciences sociales dans la construction de ton travail, est-ce que tu penses la société en amont? Est-ce que pareil que Daniel, c'est d'abord le personnage et puis tout ça vient derrière.
Tout comme Daniel, moi je fais tout comme Daniel.
D'accord, très bien.
Oui, je pars d'abord avec les personnages, c'est toujours les personnages qui me montrent leur monde. La structure sociale vient après, une fois que mes personnages sont installés, une fois que le monde est installé aussi, puisqu'il y a aussi l'aspect planétaire qui est très très important. Ça va, on m'entend ?
Oui, pas trop bien. Hein.
Pas trop bien.
Le micro de Pierre est un peu bas, peut-être.
Ouais, ça a l'air bon là. Et donc, voilà, alors il y a la structure sociale qui se met en place, qui est souvent calquée sur des structures sociales existantes, parce que j'ai un petit peu de mal à inventer des systèmes politiques de A à Z. J'ai essayé de le faire dans Orcheron, dans la mesure où c'était une société qui s'installe venant d'un vaisseau et que Il y avait une grande liberté du coup de structure sociale. Et, ça, et là, je me suis rendu compte que de l'impact des mythologies, les mythes fondateurs, comment on va créer une société. Avec, et donc, dans Orchéron, qui se passe 1000 ans après Absalon, la société se construit en contraire, en opposition avec ce qui a existé avant, qui était une société patriarcale. Donc la société devient d'essence matriarcale. Les légendes sont les légendes qui sont les histoires du vaisseau, qui se sont transformées en légendes, et donc où les personnages du vaisseau sont devenus archétypaux. Donc je tiens compte de tout ça. Il faut tenir compte de la gravité de la planète, parce que la gravité va peut-être engendrer des particularités qui vont faire que la société va aussi évoluer d'une façon différente. Trop de gravité ou pas assez de gravité fait que peut-être qu'on n'aura pas la même structure sociale. Le climat est important, puisque le climat peut avoir une interaction sur les individus et sur le regroupement des individus. Donc j'essaie de tenir compte de tout ça, mais je ne le fais pas avant. Je le fais toujours au fur et à mesure du récit, parce que, comme Daniel sans doute, je suis un scriptural, selon la définition de Francis Berthelot, qui est que certains auteurs ont besoin de l'écriture pour structurer le récit, alors que d'autres auteurs ont besoin, les structuraux, donc qui ont besoin de structure pour installer leur structure avant de commencer le récit. Donc évidemment, moi, c'est l'écriture qui structure. Je ne sais pas si c'est ton cas, Daniel. Non, c'est une structure. Non, c'est une structurale. C'est une fausse structurale.
Ah, attention.
En fait.
Ouais.
Mais partir avec les personnages, pourtant, avant de poser l'organisation sociale, relève pour moi du scriptural. Donc, après, évidemment, je ne me documente pas sur les sociétés existantes, je ne me documente pas sur les formes de gouvernement. J'essaie de voir quelles formes de gouvernement correspondent le mieux à ce moment-là, à cette planète-là, à ce moment-là, avec ces gens-là, avec aussi leur passé mythologique, leur passé, la façon dont ils sont arrivés jusque-là, encore une fois, les caractéristiques planétaires et tout ça. Et j'essaie d'en tenir compte, j'essaie de... Alors, en tant que scriptural pur, j'essaie que ce soit le récit qui impose sa propre logique et qui détermine un peu comment va être la structure sociale de mon monde.
Donc, tu laisses finalement venir ce que tu sais de des structures sociales, nourrir, enfin infuser le récit qui a
commencé. Oui, alors après, il est évident que je suis influencé par les structures sociales existantes, parce que je ne connais que celles-là. Et c'est une transposition, en fait, en quelque sorte, c'est-à-dire... on avait fait un colloque sur le droit et science-fiction à Limoges il y a un an à peu près, oui. Je ne sais plus à peu près. Oui. Et donc voilà, comment s'installe le droit à ce moment-là, sur quelle base il s'installe. Bon. Tout ça au fur et à mesure, c'est une question de cohérence, je pense, une question de cohérence du récit global. Et je fais énormément confiance au texte, du coup, pour que s'installe la cohérence.
D'accord.
Je pense que si je plaque avant la structure sociale dans laquelle vont évoluer mes personnages, je me dessèche et je n'aurais plus envie de faire le livre.
D'accord. Alors, très intéressant pour vos deux méthodes qui quand même se ressemblent, même si, bon, il y a un côté plus structurel manifestement. Alors, avant de faire un bilan et de revenir sur ce qui me... Laurence. Alors, Laurence, oui. Structurale ou scripturale ?
Alors, moi, tout vient au moment où j'écris. Donc, ça se rapproche plus de Pierre.
D'accord.
Et je commence aussi par les personnages et le monde. Mais le monde physique.
Physique, d'accord.
Dans le cas de Vestige, c'est une planète de glace qui a été colonisée il y a plus de 150 ans. Et avec Vestige, on voit enfin l'émergence en fait, d'un concept de nation. D'accord. C'est une planète qui a été colonisée, mais en fait, les colons n'ont pas réussi en fait, à se l'approprier parce qu'ils planent en orbite un ancien artefact.
D'accord.
Qui fait que les humains
sont pas à la surface.
En orbite.
D'accord.
Et cette première vague de colons en fait n'arrive pas à s'approprier le monde. Et au moment où l'histoire débute, il y a la première idée d'une nationalité où les colons se disent voilà, nous ne sommes pas des colons, nous sommes des habitants de cette planète. Il y a une sorte de scission avec le monde d'origine qui est la Terre en fait.
D'accord.
Et ils veulent justement aller en opposition par rapport au monde qui a été le leur avant.
D'accord. Cette idée dans la genèse de Vestige et donc de Quantica, cette idée d'étudier la naissance d'une nation, c'est venu donc à travers dans le travail de construction du roman.
Je me suis rendu compte que j'en avais besoin avec mes personnages. Les personnages que j'avais mis en scène dans le livre avaient besoin en fait d'un contexte. Et en fait, c'est comme ça. Mais c'est au fur et à mesure en fait que j'ai construit le contexte. J'ai pas commencé à imaginer le contexte.
D'accord.
Et ensuite, voilà.
D'accord. Si je résume leurs trois points de vue, Donc il part toujours des personnages, qui finalement est quelque chose de bon, on va dire de très classique en général dans, chez les auteurs, ce qui garantit aussi bien sûr la force des personnages, puisque vous savez bien que Stephen King l'a dit très simplement, pour construire un récit, il y a trois éléments de base, trois éléments classiques: la situation, généralement dramatique, au départ en tout cas de l'histoire, l'intrigue, ce que l'on va raconter, et puis bien sûr les personnages qui sont le plus que le fil rouge, qui sont la colonne vertébrale du récit, sans lesquels finalement vous n'êtes pas suffisamment accroché au récit. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point finalement tous trois reconnaissent que ce qu'ils font passer comme éléments de sociétaux, on va dire, dans leur récit, sont tout simplement ce que eux savent, ou leur représentation classique de leur société, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas forcément, hein, si je suis bien, hein, à inventer de nouvelles sociétés en tant que telles, comme objet narratif.
Est-ce que oui, je peux dire, alors c'est le cas pour Vestige, mais par exemple dans la suite de la trilogie, donc je ne vais pas parler maintenant, mais il y a une construction d'une société complètement différente. À ce moment-là, j'ai dû effectivement faire le travail inverse, parce D'accord. que c'est quelque chose d'une société non humaine, et là effectivement j'ai dû quand même réfléchir passablement à cette forme de société bien avant de... Voilà.
D'accord, donc là ça a été dans ce cadre-là, dans l'évolution, l'inverse, hein, donc plus structurel on va dire. Ça me fait penser à une citation d'un historien britannique que j'aime bien, qui est Arnold Toynbee, et qui disait quelque chose qui s'appliquait à l'historien, mais je pense que ça s'applique bien aux écrivains en matière de cadres sociaux, de structures sociales. Il disait que alors pour l'historien, il disait cela, mais qu'il est esclave de sa société, il est influencé par son cadre social, comme le potier est esclave de l'argile. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quel que soit le talent du potier, quel que soit le talent de l'artisan, ce qu'il va produire dépend de l'argile qu'il a entre les mains. Selon la qualité de l'argile, il va produire des objets qui seront aussi beaux que possible, mais en fonction de ce qu'il a entre les mains comme matière première. Alors la matière première que les auteurs que vous avez devant vous ont entre les mains, c'est leur société, leur rapport au monde. Et je pense que ce rapport au monde, presque à leur insu finalement, s'exprime dans leur roman, dans leur récit. Par exemple, Daniel, est-ce que, de façon consciente, peut-être inconsciente, les événements extérieurs, les événements quotidiens, politiques, économiques ou autres, est-ce qu'il y a une sorte de... Est-ce qu'ils s'infiltrent? Est-ce qu'ils infusent?
En tout cas, tout à fait, en ce qui concerne Outre-mer, parce que la trilogie d'Outre-mer qui met en scène la problématique des médias... Elle est née d'une chose extrêmement précise. Quand j'étais étudiante en lettres à la fac de Dijon, j'hésitais entre plusieurs options qui s'offraient à moi. Et j'avais envisagé de faire du journalisme. Et donc, pour des raisons diverses, c'est vers l'enseignement que je me suis dirigée. Mais j'ai toujours gardé cette idée que j'aurais pu être journaliste. Et j'ai assisté en direct quasiment à la télévision, ça remonte très loin, mais je pense que c'était une image tellement marquante que plein de gens s'en souviennent encore. Il y avait eu une éruption volcanique, je ne sais où, en Amérique du Sud, et il y avait une petite fille qui dramatiquement était coincée dans une mare de boue qui montait, etc. Et il se trouve qu'à cet endroit, il y avait quelqu'un qui tenait une caméra et qui était en train de filmer. Et on a vu ça, peut-être en léger différé, parce qu'on n'avait pas les directs comme on a maintenant avec les chaînes info, mais on a vu ça, on a vu cette petite Mayana en train de quasiment mourir en direct, et d'ailleurs elle n'a pas réussi à être dégagée parce qu'il n'y avait pas les moyens d'apporter des outils de levage, étant donné qu'on était dans un lac de boue. Et j'étais devant ma télé quand j'ai regardé ça, avec une espèce de mais vraiment, ça me bouleversait en me disant, si c'est ça le journalisme, j'ai bien fait de ne pas être journaliste. J'avais l'impression que c'était l'antithèse complète, aux antipodes de ce que j'aurais aimé être comme journaliste, que de tenir une caméra en train de filmer la mort d'une gamine en direct. Et donc, c'est ce que ça a travaillé certainement longtemps dans ma tête. Et le jour où j'ai eu envie d'écrire Les abîmes d'Outre-mer, je suis partie sur cette idée-là d'une équipe de journalistes qui était prête à filmer la mort en direct au prix du scoop à tout prix, pour avoir la nouvelle qui se répande sur tous les réseaux galactiques de télévision, d'Internet, etc. Et quand j'ai, franchement, quand j'ai écrit la trilogie d'Outre-mer, c'était pas au point où on en est maintenant. On n'avait pas cette information instantanée, on n'avait pas tous ces tweets, etc., qui font que aussitôt qu'il se passe quelque chose, on est au courant. Et je me suis rendu compte quand même que ça interpellait énormément déjà mes jeunes lecteurs, l'hypothèse d'une course au scoop à ce point-là. Et voilà. Et donc l'héroïne est une jeune fille en plus, qui justement à 16 ans est prête avec sa caméra anti-gravitation à filmer n'importe quoi. Le roman commence comme le Titanic dans l'espace. C'est un vaisseau spatial qui fait sa croisière inaugurale et qui est heurté par quelque chose. On ne sait pas quoi. D'ailleurs, un jour, un lecteur me dit « Mais vous savez quoi ?» J'ai dit « Non. » Il m'a dit « Ah bon, vous écrivez des choses sans savoir ?» J'ai dit « Mais ça, c'était avant le roman. Alors, c'est pas important. On commence au moment où l'accident a eu lieu. » Et j'ai eu aussi une autre remarque d'un jeune lecteur très intéressante. Un de mes jeunes lecteurs qui me dit « En général, vous tuez un de vos personnages par roman. » Alors, je dis « Bien, bravo. Là, voilà quelqu'un qui avait bien suivi toute la production que j'avais pu faire. » Et il me dit, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de mort dans les abîmes d'Outre-mer. Alors je lui dis, tu es sûr, il n'y a pas de mort dans les abîmes d'Outre-mer. Ah, il me dit non. Il me dit ça, je suis affirmatif, il n'y a pas de mort dans les abîmes d'Outre-mer. Mais je dis, je suis désolé de te décevoir, mais il y en a 850 à la première page. Et donc là il m'a dit, ah, ceux-là, je ne les avais pas vus. Et j'ai dit, ben voilà, c'est exactement pour ça que j'ai écrit cette trilogie. C'est pour montrer que quelquefois, aux infos, on a des milliers de morts qui passent, si j'ose dire, en quelques secondes, et on va s'apesantir sur un personnage en particulier. Et là, j'ai dit, je voulais montrer justement les dérives potentielles de l'information.
D'une certaine manière, c'est en fait l'impulsion du roman. Donc, enfin,
c'est ma vie.
C'est ça. Et puis, oui. C'est surtout aussi une critique de la presse, finalement.
Une critique de la presse.
Le roman est construit aussi autour de ça, d'une critique de la presse. Et de la presse totale, enfin ce qu'on pourrait appeler la presse, la presse événementielle, le scoop, etc. D'accord. Pierre, est-ce que des événements sociaux ont délibérément ou de façon plutôt souterraine dicté l'écriture de tel ou tel de tes romans, peut-être l'Évangile du Serpent?
Oui, il y en a un. L'Évangile du Serpent était publié en août 2001, c'est-à-dire exactement un mois avant les attentats du 11 septembre. Et parlait d'un attentat terroriste islamique à Disneyland à Paris. Et du coup, il a souffert du vrai attentat, puisque les pages culturelles ont beaucoup sauté à ce moment-là sur les journaux. Et c'était vraiment... les attentats du 11 septembre, j'étais en direct avec un ami new-yorkais au téléphone. Il me dit « Regarde, il se passe un truc à la télé. » Et j'allume la télé à ce moment-là. Et donc, je vois le deuxième avion en direct s'écraser dans la tour. Et... outre le fait très choquant, parce qu'on se croit dans un film, on a même du mal à croire que ça se passe réellement, ce qui m'intéressait beaucoup dans cet événement-là, c'est la réaction. La réaction des Occidentaux par rapport à ce qu'ils considéraient comme une agression sur leur territoire. Et je me suis dit, c'est là... Donc évidemment, il y a eu l'axe d'Oumal qui a été désigné, et puis tout ce qu'on ferait derrière, et on allait vers un conflit entre deux civilisations, puisque les deux civilisations paraissaient incompatibles. Et je me suis dit, tout ça était éminemment prévisible. Ce déséquilibre du monde se manifeste évidemment par ce genre d'événements, ce genre d'attentats. Et de déclarer que l'autre est un axe du mal, c'est manquer la réflexion que cet attentat aurait dû poser, qui est l'équilibre du monde. Qu'est-ce qu'on fait de notre monde? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et ça m'a inspiré directement l'ange de l'abîme, puisque l'Occident disait « Oui, voilà, il y a l'axe du mal, ce sont les méchants, il faut leur casser la gueule tout de suite ». Il dit, allons leur casser la gueule, parce que moi, je suis auteur de SF et je peux le faire sans trop de... et rapidement. J'ai écrit l'Ange de l'Abîme, qui est un conflit entre le monde musulman et le monde chrétien, pour montrer que ce n'est évidemment pas la solution. Ce sont des mécanismes archaïques, et c'est ces mêmes mécanismes archaïques qui ont poussé, qui ont abouti à ces attentats. Et là, je pense que c'est le vrai rôle de la science-fiction, un des trois grands rôles de la science-fiction, c'est-à-dire c'est parler du présent. C'est-à-dire les événements du présent nous sollicitent pour un saut dans l'espace-temps pour mieux revenir vers le présent. Ça, c'est la deuxième. Le premier élément étant l'émerveillement, le dépaysement proposé par la science-fiction, une espèce de merveilleux voyage. Deuxième élément, la réflexion sur le présent. par ce genre d'événements qu'on peut réinterpréter après en se projetant dans l'espace-temps. Donc paradoxalement, la littérature de science-fiction est une littérature du présent et même la seule littérature du présent parce que toutes les autres sont des littératures du passé. Il n'y a que celle-là, il n'y a que la projection dans l'espace-temps qui permet de parler du présent. Troisième élément, l'interrogation philosophique. Et là, on revient à la constitution des sociétés sur les mondes nouveaux, etc., c'est-à-dire avec tout le fond mythologique ou le fond religieux qui s'installe. Et merci, merci.
C'est pour Pierre.
Et donc, à partir de quand, et c'est ce qui m'intéresse dans la formation d'une société, par exemple, sur une planète, à partir de quand le rêve du début, comme le rêve américain, le rêve de liberté des pionniers américains, va se transformer en machine à oppresser l'individu. Et ça, c'est intéressant. Du coup, dans les sociétés, on va arriver à un moment où le poids social, le développement social, les intérêts des uns et des autres vont créer une société extrêmement coercitive où l'individu veut peu à peu disparaître. Et c'est là que, par rapport à mes bouquins, surtout sur l'espèce opéra où il y a des créations de sociétés, j'ai fait une création de société idéale, les Darshanites, dans la fraternité du Panka 3, parce que j'en vis dans une sorte de cave, c'est un petit milieu complètement coupé du monde à cause d'un problème glaciaire qui fait qu'on est obligé de vivre à l'intérieur. Mais en dehors de ça, toujours, il y a des mécanismes qui sont à l'œuvre qui font que la société va oppresser l'individu, que la société va prendre le pas sur l'individu et que ça va généralement engendrer des conflits et des catastrophes, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, oui, quoi, oui. Ce mécanisme-là. C'est pour ça que je prends beaucoup de modèles existants pour voir à quel point on peut les pousser et à quel point ils vont se transformer pour broyer l'individu.
Oui, c'est sur ce point qu'en fait, la science-fiction, notamment chez Pierre, permet une expérience de pensée. C'est-à-dire, on va prendre une société... En plus, c'est pas dangereux puisque c'est de la fiction. Donc, on n'a pas obligé de faire des expériences de pensée, d'expériences de laboratoire sur des communautés réelles, des communautés humaines réelles, ce qui a été fait dans l'histoire. Vous le savez tous. Pierre utilise la science-fiction comme élément d'une expérimentation pour voir jusqu'où peut aller une société pour se nier elle-même, en fait. Oui, c'est pas une expérience de laboratoire, oui. Mais on va prendre le mot d'expérience de pensée pour dire une construction mentale, tout à fait. Tout à fait. La personne qui intervient, mesdames et messieurs, devant, c'est Monsieur Georges Bormand. Un extrêmement bon connaisseur de la science-fiction et que je regrette de ne pas avoir fait venir plus souvent sur la... Ça changera l'année prochaine.
Pour résumer, je pense que la science-fiction permet justement d'explorer ou d'expérimenter les prêts-à-penser et de voir comment on peut sortir
bien
des prêts-à-penser.
Bien sûr, comment on peut, par un changement de point de vue, sortir. C'est exactement ce vers quoi j'essaye d'amener la table ronde pour qu'on comprenne que si on se nourrit des sciences sociales et du cosplay derrière aussi, j'espère que vous m'entendez. Moi, je sais pas. Moi, j'entends surtout le cosplay, hein, donc j'espère que vous entendez. Surtout, la science-fiction peut être aussi un outil. C'est ce vers quoi on va aller pour les chercheurs. Et je voudrais avoir après le retour de ces auteurs sur être un outil pour les chercheurs. Est-ce que ça leur plaira ou pas? Juste un mot à Laurence, après on donnera la parole à Claude, qui aurait été suffisamment puni d'être arrivé en retard pour ton histoire de naissance d'une nation. Est-ce que tu as été peut-être influencé ou imprégné par des événements particuliers qui t'auraient amené à ce thème-là? Est-ce que tu as l'impression, peut-être dans la construction du roman, d'avoir été influencé sur ce sujet-là par quelque chose de précis?
Oui, alors en fait, quand j'ai imaginé mes indépendantistes, en fait, j'ai beaucoup pensé chercher un modèle de rebelle. Bon, je me suis inspirée du Che Guevara, en fait. Donc voilà, une sorte de guérilla, pas urbaine, pas de forêt, mais de glace, en fait, dans un univers de glace. Et il y a une part dédiée à l'intégrisme aussi dans mon bouquin, parce que c'est un thème qui m'a toujours beaucoup perturbée. Et comme les lecteurs le découvriront dans la suite, dans le tome 2, en fait, de Quantica, il y a un élément déclencheur de la trilogie qui est un acte intégriste, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un... Et quand Poyard parlait justement de son ami au téléphone, moi, j'étais au téléphone avec une amie aux États-Unis qui m'a dit « Regarde la télévision ». Donc, c'était exactement la même chose. Et j'ai allumé la télévision, je me dis « C'est pas possible, c'est un film ». Et c'est pour ça que ça m'a fait... je me suis dit « Oh là !» Et la première réaction, c'était une incrédulité totale, parce qu'on voit ça tout le temps dans les films, et tout d'un coup, c'était...
D'accord. Voilà. Donc il y a quand même aussi, une fois de plus, cet élément du contexte qui vient, pas comme un élément d'inspiration pure et simple, mais comme un fond,
choc,
comme ça,
comme
presque
un choc.
Un déclencheur.
Qui
s'exprime après dans la fiction, parce que vous êtes des auteurs et que c'est comme ça que vous exprimez les chocs.
J'avais été beaucoup choquée aussi par tous les événements, les attentats intégristes de Bombay. Donc on retrouve en fait dans le tome 2 de Quantica, qui sont éléments déclencheurs en fait.
Okay.
Pas de ces éléments-là, mais je m'en suis inspirée en fait pour.
Ok, Claude, tu vas monter sur la scène du cosplay des sciences sociales. Alors dans ton travail, on a commencé par d'abord identifier la place des sociétés. Et dans ton travail, qu'est-ce qui, d'après toi, est directement ou indirectement influencé par les événements sociaux qui ont baigné à un moment donné la maturation de ton travail d'auteur? Est-ce que de façon consciente, ou plutôt tu penses en être détaché complètement? Est-ce que des événements précis ont nourri le roman qui était en cours d'écriture?
D'accord. Bon, déjà, désolé d'être en retard, j'étais en train de signer.
Pardonné.
Et je crois que le quotidien et l'actualité nourrissent sans cesse mon imaginaire. J'ai toujours dit, aujourd'hui on peut bien parler du présent qu'au futur, donc si l'on va, comme le disait très justement Pierre, écrire de la science-fiction, c'est bien pour parler du présent et non pas d'un futur hypothétique qu'on ne verra jamais et sur lequel on ne peut que spéculer. Concernant ce que tu avais dit, Daniel, sur cette jeune fille morte, je ne sais pas si tu l'as dit, j'étais arrivé à ce moment-là, elle n'est pas morte dans la boue, elle est morte à l'hôpital un petit peu après. Mais ça, les journalistes ne l'ont pas dit, parce que c'était tellement plus romantique de savoir qu'elle était morte là. Moi, j'ai écrit à la fin du Mon Tout Droit Réservé, puisque le journaliste n'est que l'artisan de cette invention permanente qui tient lieu de réalité, il ne reste plus pour rendre compte du réel qu'à utiliser la fiction. Et c'est bien pour ça que mes histoires sont imaginées de toutes pièces. J'écris de la science-fiction pour pouvoir parler du réel d'une manière détournée qui n'est pas celle du journaliste qui choisit parmi le réel quelques petits éléments qui le jugent pertinent et qui balaye et ignore tout le reste. Alors évidemment, parfois l'actualité nous presse et ce qui fait que mon dernier recueil, Au réveil il était midi, commence en se déroulant de nos jours. J'avais dans la première histoire écrit même « La science-fiction est morte, le présent est quelque chose de plus urgent ». Et chasser le naturel et revient au galop. Au fil des récits, on se tourne de plus en plus vers l'avenir. On finit en 2021. Et c'est aussi une manière, je n'ai pas trouvé d'autre manière que de parler de l'actualité, des problèmes sociaux d'aujourd'hui, que d'utiliser le futur, la science-fiction, l'imaginaire.
Merci beaucoup. Le complément qui arrive parfaitement. Moi, à mon sens... tous les quatre vous disent en fait que la science-fiction est le reflet du présent. C'est quelque chose qu'on aime bien expliquer au public qui découvre la science-fiction. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on est toujours des éponges des événements sociaux, des changements sociaux, comme des vigies en quelque sorte. Les auteurs, sans forcément vouloir le faire consciemment, je ne dis pas que chaque auteur veut faire passer des messages sociaux. Ils vous l'ont dit d'ailleurs, le point de départ de leur travail n'est pas une volonté consciente de faire passer un message, qu'il soit politique, sociologique ou autre. Mais malgré eux presque, ils sont des éponges sociales qui expriment à travers leurs textes les enjeux de leur quotidien au moment de la rédaction de leur récit. Alors, aujourd'hui en France, dans l'université, et je ne parle pas des sciences dures, je parle vraiment des sciences qu'on qualifie de sciences humaines ou de sciences sociales, je ne vais pas rentrer dans le débat terminologique, mais aujourd'hui en France, enfin, on va dire depuis 15 ans peut-être, on utilise la science-fiction comme un outil de travail, comme une source de réflexion en sociologie, en psychologie, en anthropologie aussi, en droit de moins en moins, enfin en droit c'est encore vraiment très très, le droit est très très résistant, mais ça commence à venir aussi. En anthropologie juridique notamment, on commence à étudier des récits de science-fiction, parfois les récits par exemple qui décrivent des mondes très différents. On essaye de voir quelles représentations des rapports sociaux, des rapports dans la famille ou des structures familiales elles-mêmes, je pense à Pollen de Joël Vintrebert par exemple, qu'est-ce que ça dit sur l'état d'une société et son cheminement entre ses principes de départ et puis sa dégénérescence ou sa décadence peut-être inévitable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'université en France utilise la science-fiction comme un outil. Alors pas comme un outil exclusif, comme un outil parmi d'autres. Et on voit maintenant, alors qu'au départ ça paraissait complètement vraiment choquant et ça se voyait très très peu, sauf en linguistique, hein, parce que en études linguistiques, on avait beaucoup de travaux sur les livres univers, par exemple, sur Frank Herbert ou autre. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la science-fiction est devenue un outil pertinent. Alors, avant d'aller plus loin sur ce point, moi, je me tourne vers les quatre auteurs qui sont là. Et il y a une question quand même qui, moi, me... j'ai envie de voir... Dites-moi la vérité, vraiment. Le fait que vos écrits... soit utilisé en recherche universitaire. C'est-à-dire que potentiellement, pas simplement pour parler du monde au public, mais par exemple en pédagogie, comme un outil pédagogique, hein, je pense notamment à Daniel pour ses travaux avec les enfants, ce qu'elle fera demain, mais aussi en recherche universitaire, potentiellement, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que quelque part vous vous dites, voilà ce que j'ai essayé de dire sur le monde qui était tellement impossible à penser qu'il a fallu que j'ai recours à la fiction pour le dire. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous dégoûte? Est-ce que quelque part vous avez l'impression que vos romans sont peut-être spoliés de leur partie la plus belle, finalement, la plus personnelle? Quel est votre rapport à ça? Je veux dire, le fait de potentiellement être devenu, par vos récits, par votre imaginaire, des objets de recherche scientifique. Alors, Pierre, peut-être?
Je commence. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
Il n'est pas là.
Non, bah merde. Oui, bah alors c'est ambivalent, évidemment. Le sentiment, j'ai eu un bouquin écrit par Fabien Clavel, je ne sais pas si c'est là, pour la destination des quatrièmes, je crois, ou du collège, cinquième, quatrième, qui utilise certaines de mes nouvelles pour amener l'outil science-fiction comme élément de réflexion. Et de littérature, et aussi pour essayer de récupérer les gamins pour le plaisir de lecture, ce qui est plus difficile avec les auteurs du 19e, apparemment. Ou des thèses universitaires, il y en a eu. On découvre, tant qu'on a un extrait de texte dans un manuel d'écrit du science, enfin de première technologie ou de terminale technologique, etc. Je suis content que ce soit utilisé en tant qu'élément de réflexion, c'est-à-dire que si ça permet de faire avancer la réflexion. Ça ne m'appartient plus, parce que de toute façon, une fois que le bouquin est sorti de moi, enfin le livre est sorti de moi, il ne m'appartient plus, il appartient à ses lecteurs. Donc je dis toujours d'accord quand on me demande si on peut exploiter mon travail à des fins universitaires ou autres, ou scolaires, parce que je pense que c'est bon, voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie du livre après moi. C'est comme un enfant qui est sorti de moi et qui a sa propre autonomie, donc voilà, il va vivre sa vie et il va peut-être se retrouver dans des études et dans tout ça. Ça me fait un peu plaisir, je le reconnais. Parce que ça fait une forme de reconnaissance du travail. Je me demande si je suis pas mort régulièrement, mais non, apparemment je suis toujours vivant. Voilà, ça me paraît. C'est aussi un élément qui est important, je pense, c'est que cette science-fiction qui a été tant décriée sur le plan culturel, qui a une sorte de déni, hein, quand on voit la citation de Michel Tournier dans l'étude des frères Bogdanov, en 74 sur l'effet science-fiction, où il dit que la science et la fiction sont condamnées à faire des avortons minables. Ça veut dire qu'on a quand même un petit peu évolué sur le regard posé sur la science-fiction. Ça veut dire aussi qu'on se rend compte de l'intérêt du genre, ce fameux intérêt dont on parlait Claude aussi, c'est-à-dire cette réflexion sur le présent, ce que ça peut amener. Et donc ça, c'est plutôt positif à mon avis, cette diffusion de la culture. Et il y a un danger à cela, je pense, c'est la récupération académique qui stérilise les choses.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc il faut aussi qu'on reste, à mon avis, une littérature de marge, c'est-à-dire avec une énorme liberté. Ça dépend aussi du système économique, malheureusement, c'est-à-dire est-ce que les éditeurs vont prendre les récits, jusqu'à quel point on peut aller, etc. Mais je pense qu'il faut garder cette liberté créative absolue. Et puis après, se dire que finalement le reste ne nous appartient pas et que bon, les honneurs, tout ça, ça va 5 minutes, mais c'est pas ça l'essence du travail. L'essence du travail, c'est vraiment d'explorer le maximum à la limite de nos possibilités de l'utilisation de cet outil fantastique qu'est la science-fiction. Et la réflexion que je me suis toujours fait, c'est pourquoi je fais de la science-fiction, et les gens me disent pourquoi vous faites de la science-fiction alors qu'il y a peut-être tant de choses à dire sur le réel, mais parce que justement, effectivement, on ne parle pas jamais mieux du réel que par le biais de la science-fiction ou des littératures d'imaginaire. Donc voilà. Donc c'est à la fois une sorte de constat de plaisir en disant voilà, le genre est reconnu, mon travail est reconnu, et un appel à la vigilance, à savoir il ne faut pas perdre pour autant son âme.
Sa liberté et voilà, sa vivacité. Voilà. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Qui veut s'exprimer sur la question? Claude, peut-être ou...
Oui, bah, écoute, tout pareil. Hein. C'est vrai que c'est une immense satisfaction et un soulagement aussi bon, de voir d'une part bon, la reconnaissance de la science-fiction, la reconnaissance de son travail, mais de voir aussi que nous ne sommes pas en train d'évoluer sur deux chemins entièrement parallèles, comme si ce que l'on écrivait ne trouvait aucun écho dans le réel ou dans le monde universitaire de la recherche. Parce qu'alors, on se dit, est-ce qu'on se trompe complètement? Est-ce que eux-mêmes, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris du monde et que nous essayons de faire entendre? Voilà, donc le fait qu'il y ait des ponts et des passerelles me paraît extrêmement intéressant. Si jamais je suis au courant, bon, non seulement je dis oui, mais je suis même prêt à échanger. J'ai envie d'échanger, de discuter sur les problématiques, les questions qui sont soulevées. Et c'est ce que, d'ailleurs, Eric et toi faites très bien en organisant les colloques de Peresque, qui permettent de regrouper des gens de diverses disciplines pour échanger sur un thème donné. Et c'est vraiment... un moment de liberté en même temps incroyable et très enrichissant de pouvoir parler depuis plusieurs points de vue et que enfin la science-fiction puisse aussi rencontrer les universitaires alors que nous ne sommes pas des chercheurs, c'est aussi extrêmement stimulant pour nous.
Oui, et j'ajoute, Claude est très gentil et adorable de citer notre travail avec Eric et ce qu'on construit. On n'est pas les premiers, il y a les colloques de Cerisy aussi hein, qui font un travail énorme. Et puis, il ne faut pas oublier que... c'est en France hein, qu'il y avait ce problème-là, cette espèce de repoussoir science-fiction comme outil pas crédible, parce que chez les anglo-saxons, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, dans les pays de culture anglo-saxonne, ça fait très longtemps que les science fiction studies existent et où on voit des universitaires de très haut vol disserter et publier des articles de recherche extrêmement pointus, parfois totalement abscons et illisibles pour le lecteur normal, sur des textes de science-fiction. Donc il n'y a pas de... voilà, hein, c'est un cas français hein, qui aujourd'hui est en train d'être dépassé pour le meilleur et j'espère pas pour le pire, c'est-à-dire pas pour la perte de la liberté, de la vivacité de cette littérature qui doit parler toujours du présent à vous d'abord, le public, et pas forcément dans des cercles fermés d'universitaires.
Moi je trouve très intéressant, donc moi ça m'a jamais encore arrivé qu'on m'étudie. Hein, mais par contre,
je suis en train d'être étudié là. Ouais.
Mais il y a une semaine, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, qui me fait penser à ce qu'on est en train de discuter. C'est quelqu'un me demande « Ah, qu'est-ce que tu écris ?» Et j'écris de la science-fiction. Et cette personne prend une tête vraiment horrifiée et me dit « Ouh là là, moi j'aime pas du tout les choses qui reposent sur rien, qui parlent de l'imaginaire et qui n'ont aucun rapport avec la réalité, etc. » Et je me suis dit « Tiens, voilà, ben ça c'est une vision de la science-fiction effectivement qui est complètement fausse, erronée, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on parle de la réalité à travers par le biais de l'imaginaire, mais bien sûr, quoi, ça me semble... Et là, cette réaction était viscérale. C'était mon Dieu, va des rétros, l'imaginaire, mais mon Dieu.
Oui, c'est encore des représentations.
Oui, ouais, tout à fait. Ça m'avait un peu surpris quand même.
Aujourd'hui, elles sont quand même minoritaires et passéistes. Ouais, 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 le festival en lui-même n'existerait pas si on était encore sur des schémas de ce type. Daniel, je ne crois pas que tu te sois exprimé, mais tu t'es pas obligé de le faire.
Mais moi, je suis très souvent étudiée.
Ben oui.
C'est un petit peu le but aussi de la littérature jeunesse que d'essayer de pénétrer un petit peu l'éducation nationale pour faire réfléchir les jeunes à des options différentes, etc. Donc, c'est vrai que c'est toujours très touchant quand les jeunes viennent dire tout simplement, je n'avais jamais lu un livre en entier, j'ai lu le vôtre en entier. Et il y en a presque qui le disent avec colère, d'ailleurs, parce qu'ils s'étaient forgé une idée très précise du fait que jamais il ne lirait un roman, et que voilà, j'ai réussi à les piéger, et donc ça, j'en suis très fière. Mais ce que je voulais signaler, c'est qu'il ne faut absolument pas écrire dans une option, justement, pédagogique. Il faut garder complètement Le plaisir d'écrire, il est là. Enfin, on est écrivain parce qu'on aime écrire. On aime créer des mondes, créer des histoires, mettre des plein de personnages, jouer aux marionnettistes, etc., avec nos univers. Et si de temps en temps, on se prend la tête en se disant « Ah, voyons voir sur quel sujet je pourrais bien faire réfléchir mon lecteur en parlant de ça », alors là, ça ne marchera jamais. Ce qui est justement complètement imperceptible au moment où on écrit, c'est ce que le lecteur, lui, va voir, va prendre, va se nourrir de ça. Et c'est la magie de l'écriture, mais il faut avant toute chose que ça reste un plaisir, quelque chose d'assez instinctif, et donc surtout pas calculer, quoi. C'est ce que je voulais dire. Il faut pas calculer, parce que si on envisage d'obtenir tel effet, parce que il faut garder des choses présentes à l'esprit, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça soit trop... Sinon, autant écrire un documentaire. Hein.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de servir à réfléchir sans avoir réfléchi à servir. C'est-à-dire écrire pour être auteur. Oui. Et peut-être, les livres sont...
C'est le fameux sens of wonder.
Oui, tout à fait, bien sûr.
On écrit aussi pour d'abord raconter des histoires.
Bien sûr, c'est viscéral d'abord. Et, voilà.
Et c'est comme ça que ça marche le mieux. D'ailleurs, la réflexion vient avec la parabole, justement, si l'histoire elle-même est déjà prenante, intéressante, etc.
Bien sûr, d'ailleurs, aucun lecteur ne finira... je ne crois pas que vous, ici présents, vous finiriez un livre présenté comme fiction si ce livre était atrocement centré uniquement sur des démonstrations, bien sûr. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, après je vais laisser la parole au public, il reste 10 minutes, mais je voudrais quand même savoir, est-ce que tu as déjà eu un livre refusé par un enseignant parce qu'il dit non, on ne peut pas dire ça à des enfants, ou alors ça ne correspond pas à ma pédagogie, est-ce qu'il y a déjà eu un cas comme ça d'enseignant un peu qui dit, bah voilà, moi non, je ne pensais pas que c'est la science-fiction, mais vu que c'est la science-fiction, c'est n'importe quoi, au contraire, les enseignants...
Je suppose que ça a existé, mais je n'ai pas été prévenu. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que dans le secret de la préparation de son travail, un enseignant a pu dire non, ça ne m'intéresse pas, mais on ne va pas me dire... j'ai pas.
Oui, parce qu'ils ont des listes.
En revanche, ce que j'ai très souvent, c'est la question, êtes-vous sûr que vous écrivez de la science-fiction? Parce que vos livres me plaisent et j'aime pas la science-fiction. Donc ça, c'est aussi un grand plaisir de ramener au genre... Les a priori souvent de certains enseignants.
Vas-y.
Moi j'ai eu pire, j'ai eu une collègue de travail qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu perds ton temps à écrire de la science-fiction? Et c'était vraiment un cri du cœur. Et pourquoi que tu n'écris pas de la vulgarisation scientifique? Là au moins tu serais utile et entendu, etc. Ça c'est le pire truc que j'ai entendu avec un très très grand sérieux. Et voilà. Et donc
avec un sourire, c'était « Mais quand écrirez-vous un vrai livre ?»
Bon, vous savez quand même, à la base, je saisis l'occasion de vous le dire, à la base, hein, les universitaires normaux, donc pas les vieux ringards ou ceux qui n'ont pas compris à quoi servait l'université, savent que le but de leur travail, c'est le grand public. Hein. C'est-à-dire que quand on fait des recherches et des articles, quelle que soit la science, y compris bien sûr sociale en question, à la base, ça doit revenir vers le public. Sinon, à quoi ça sert de payer des universitaires si c'est pour qu'ils restent enfermés dans leur laboratoire à s'exciter entre eux sur des articles de 30 000 signes et avec un appareil critique plus long que tout l'ennui que vous pouvez imaginer sur Terre. Donc le but des universitaires, c'est aussi de renvoyer au public ce qu'ils ont compris de ce public et pour l'aider à peut-être réinventer sa société pas à pas. C'est ce que font les auteurs très bien, sans que jamais personne d'ailleurs ne les ait payés pour ça, précisément. Il nous reste, on a trop parlé, c'est moi surtout, pardon, il reste du temps pour des questions. Oui, monsieur, ici, s'il y a un micro mobile, toujours pareil, je vous remercie beaucoup, voilà. Et il y a des questions au premier rang aussi.
Merci. En fait, je tiens à réagir parce que je suis étudiant en maîtrise de première année en anthropologie, donc je me sens un peu concerné. Dans quel ordre En fait, ce que je trouve important, c'est que... l'idée de la science-fiction qui pense le présent plus qu'une prospective ou une projection vers l'avenir, c'est effectivement une idée qui n'est pas suffisamment répandue. Et je voudrais aussi apporter une nuance par rapport au fait que malheureusement, c'est pas non plus suffisamment répandu à l'université. Et que moi, je travaille sur des des thématiques qui sont relativement parallèles, et notamment le rapport au temps. Donc ça me touche aussi pour ça. Et en fait, je voudrais revenir sur... Enfin, j'ai des questions sur... Enfin, aux auteurs qui sont présents, sur le rapport que, pour eux, la science-fiction entretient avec l'utopie. Parce que j'ai récemment, je ne sais pas si vous savez, il y a un atlas du monde diplomatique, un hors-série qui est sorti sur...
L'atlas des utopies, oui, voilà, c'est le monde qui a publié ça, tout à fait. Ouais,
et je trouve, en particulier, l'édito, j'ai pas encore tout lu, mais je trouve l'édito en particulier intéressant parce qu'il revient sur la dévalorisation que le mot utopie a subi tout au long de la seconde partie du XXe siècle. Et je voudrais savoir ce que les auteurs en pensent, quel rapport ils voient entre utopie et science-fiction, et encore un peu plus loin, pourquoi selon eux, en Occident, on est autant fasciné par la dystopie plutôt que par l'utopie.
D'accord, alors, utopie, voilà. Dystopie et science-fiction. Pourquoi plus de dystopie en science-fiction que d'utopie peut-être ?
Parce que premièrement, l'utopie c'est extrêmement chiant à écrire. Parce que si on parle des trains qui arrivent à l'heure, bah, finalement on dit bon, les trains arrivent à l'heure, ou alors les gens étaient heureux, point. On va passer à autre chose. Le récit de science-fiction, je pense, reprend ce vieux schéma du récit héroïque qui est que le monde va mal pour que des héros se lèvent, échangent quelque chose, ramènent une harmonie dans un monde qui est en disharmonie. Et deuxième chose, je pense que l'utopie, c'est le bonheur pour tous. Et c'est peut-être pour ça que, le mot a été de plus en plus galvaudé au fur et à mesure des siècles. Le bonheur pour tous est absolument effrayant. Je pense que l'auteur n'a pas de solution à apporter, parce que quel auteur pourrait prétendre amener une solution adoptée par tout le monde collectivement? Ça paraît complètement impossible. Et donc je pense que le but de l'auteur, ce n'est pas de proposer une utopie, c'est-à-dire un prêt-à-penser de bonheur tout fait, etc., mais de faire se poser des questions au lecteur. C'est-à-dire que si on déplace le point de vue légèrement du lecteur, c'est déjà ça, c'est déjà très très important de l'amener à s'interroger lui-même sur son monde, sur son rapport au monde, sur sa relation au monde. Ça me paraît plus important que de proposer une utopie par définition qui deviendrait totalitaire, parce que c'est l'esprit de quelqu'un qui serait imposé à tous les autres. Enfin, je ne sais pas si...
Ce qui n'empêche pas de réfléchir justement à l'utopie ou, disons, à l'amélioration des sociétés. Il y a une nouvelle sur ce thème-là de Jean-François Saumin, auteur canadien, j'ai oublié le titre, qui essayait de montrer une société utopique où les gens qui allaient diriger cette société devaient subir un certain nombre d'épreuves. Il y avait des énonciations de vérité, tout est toujours vrai, certaines choses comme ça. Et l'un de ses élèves se révèle plutôt dissident par rapport à tout ce qui est exposé et imposé de la sorte. Et donc il pense bien qu'il n'arrivera pas à gravir les derniers échelons. Manque de peau, c'est justement lui qui va gagner, parce qu'une société qui impose un bonheur figé, qui du coup c'est la fin de l'histoire et de la civilisation, puisqu'il n'y a plus rien qui bouge et qui évolue, là maintenant c'est parfait, eh bien c'est complètement impossible. Donc on a toujours besoin de ceux qui sont un peu réactionnaires, qui ont envie de remettre en question le monde tel qu'il est. Ce sont eux qui transforment la société, et la société réellement utopique ne pourrait être durable que parce qu'elle se transforme sans cesse. Bon, c'était l'idée de cette nouvelle, et j'aime bien justement ce type de réflexion au sein de la science-fiction.
Oui, d'ailleurs, dans la classe des utopies, il y a tout un article justement sur les utopies en mouvement, hein, précisément les utopies en marche, quoi, pas immobiles, pas figées.
L'affaire des animaux de Orwell est vraiment... Un livre fantastique à sujet, c'est un petit bouquin qui démontre les mécanismes de l'utopie et de la fin de l'utopie, qui se transforme forcément en dystopie, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui ne sera pas d'accord à un moment, et donc ça va créer de nouveau des conflits, les mêmes mécanismes toujours.
Alors, d'autres questions ici et là, peut-être monsieur.
Oui, non, juste sur ce sujet-là, ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Un bonheur insoutenable de Ira Levin, qui traite bien justement cet aspect où on arrive à une société utopique parfaite, où tout le monde est heureux, il n'y a plus aucun problème, et où finalement ça se transforme en une dystopie totalitaire, où il n'y a plus aucune liberté, et on est obligé d'être heureux, sinon on meurt.
Oui, Un bonheur insoutenable, très bonne référence. Ira Levin, c'est disponible J'ai lu, voilà, j'ai lu. Peut-être là-bas, là, voilà. Merci. Une question devant aussi, voilà, mademoiselle avec l'ordinateur. Merci.
Bonjour, j'ai deux questions. Du coup, une première pour Madame Martinigol sur sa relation avec les professeurs des écoles qui ont souvent une formation littéraire ou en tout cas qui n'ont pas eu beaucoup de sciences dans la fin de leurs études. Et ensuite, un peu à tout le monde pour savoir si vous aviez déjà participé à des événements dans les centres de sciences où le public, du coup, c'est pas uniquement des étudiants, des élèves, mais un peu tout le monde. Et pour dire aussi que, comme je travaille dans le centre de sciences de Grenoble, on serait très ravis de vous accueillir si vous avez envie de parler de science-fiction.
Et ben voilà, l'invitation est lancée.
Il n'y a pas énormément une grande part à la science en tant que telle, moi, dans mes romans. Et c'est effectivement des littéraires qui se penchent sur le problème avec une approche beaucoup plus... mes romans sont pratiquement tous à vocation écologique. Hein. Donc c'est cet aspect-là, souvent, qui intéresse les enseignants, qui veulent faire réfléchir leurs élèves sur que ce soit ma planète poubelle ou les problèmes des médias ou la disparition de l'eau dans l'or bleu. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que moi, je suis principalement lu en collège et qu'il y a très, très fréquemment du travail pluridisciplinaire autour de mes livres. C'est ça qui est très, très sympa à voir. C'est quand je vais dans les collèges, très fréquemment, je vois du travail qui a été fait dans plusieurs matières. Il y a des expositions faites par organisées par les professeurs de sciences, avec des productions souvent aussi artistiques, des petites maquettes, des dessins, des tas de choses en art plastique. Évidemment, le prof de français... Et le documentaliste ou la documentaliste, très souvent, sont au cœur du projet. Mais il y a énormément de travail pluridisciplinaire qui peut se faire autour d'un livre de science-fiction. Et ça, c'est très, très important. Ça a un impact qui reste mémorable dans l'esprit des enfants. J'ai même vu théâtraliser certains de mes romans. J'ai vu un roman entièrement théâtralisé par tout un collège. Je peux vous dire que ça marque un auteur. Hein,
c'est
vous
avez... oui, belle expérience. C'était lequel?
C'était Les Oubliés de Vulcain, avec les volcans, les maquettes de volcans, etc. Les personnages au milieu des ordures. C'est vrai que ça paraît complètement fou, mais c'est relativement facile à faire dans un gymnase. Hein. Les gamins étaient tous sur les gradins. Il y avait des gros cônes de papier mâché avec de l'encens qui fumait pour faire les volcans. Et c'était très très bien, c'était super.
Daniel, alors, j'étais tellement parti dans ton truc, je regardais plus l'heure, on va se faire gronder. Alors, bon, désolé, hein, désolé, plus le temps de répondre. Merci beaucoup à vous et bonne Zootopia encore. Voilà, au revoir. A smile.